Pierre Befali, bonjour.
Bonjour.
Alors, Maison Paysanne de France, c'est une association, association nationale de sauvegarde du patrimoine rural bâti et paysager, une association reconnue d'utilité publique, une association qui existe maintenant depuis quoi, une quarantaine d'années, hein, je crois,
depuis
quelque chose comme
1965
ça.
Et reconnue d'utilité publique depuis 1985.
Vous nous rappelez l'objectif principal, le principe, l'idéologie de Maison Paysanne de France?
Alors, d'une manière générale, Maison Paysanne de France est née de la volonté d'un architecte, d'un docteur et d'un groupe d'amis de ne pas laisser disparaître ce que les anciens avaient construit de leur main avec leur savoir-faire et les matériaux locaux. C'est-à-dire qu'ils voyaient à partir des années 50 que beaucoup de choses dans le paysage rural étaient démolies parce que ça n'était plus utile. Les fours, les lavoirs, les petites porcheries parce que l'agriculture se transformait et que ces constructions modestes étaient complètement détruites et rasées. Et même chose aussi pour les maisons parce que ces maisons étaient jugées pas belles, insalubres, pas commodes, pleines de courants d'air et qu'il arrivait le béton et qu'on faisait des maisons un peu plus hermétiques et carrées.
Modernes à l'époque.
Voilà,
Et tout le monde, tous ceux qui vivaient à la campagne, hein, qui avaient une ferme, justement par ici c'était beaucoup de fermes en terre crue, étaient contents de pouvoir se faire bâtir un pavillon tout en béton juste à côté parce qu'il y avait toutes les commodités qu'il n'y avait bien souvent pas dans les vieilles fermes. Hein.
Voilà, on voulait faire comme ce qu'on voyait en ville ou ce que le cousin ou le beau-frère avait en ville, une maison carrée, avec des fenêtres carrées, un escalier carrelé, une cuisine carrelée. Alors la maison d'habitation devenait une dépendance et on y mettait les animaux. Ça servait de débarras. Et puis, au bout d'un moment, quand on était très peu entretenu, elle s'abîmait et elle était détruite et rasée. Et on mettait à la place un bâtiment agricole industriel, en tôle, en parpaing, en évérite.
Voilà.
Donc, il en reste quand même encore beaucoup de ces maisons.
Pour pouvoir y ranger le tracteur à l'occasion.
Oui.
Donc là, l'idée de cette association, c'est de sauver justement tout ce bâti-là et de les restaurer comme... à l'époque et avec les matériaux de l'époque.
Voilà, sans se tromper. Ouais. Donc dans toute la France, c'est les groupes départementaux de maisons paysannes de France fédèrent les énergies des propriétaires de ces maisons anciennes ou des amoureux du patrimoine ou de l'histoire locale. Et ces gens-là s'évertuent à restaurer ces maisons à l'identique, mais surtout avec les mêmes matériaux.
Et avec les mêmes savoir-faire, parce que c'est souvent les savoir-faire qui ont disparu
voilà.
aussi.
Alors les savoir-faire, il faut aller les recueillir auprès des dernières personnes âgées qui les ont pratiquées, les derniers artisans ou les habitants des campagnes qui savaient faire. Il faut vite vite les recueillir et les réapprendre. C'est ce que nous faisons nous à Maison Paysanne de France. Le week-end par exemple, nous faisons des ateliers d'échange de savoir, de transmission de savoir-faire, pour pouvoir réparer les murs en terre, les murs en pierre sèche, les colombages, les choses comme ça, parce qu'il faut absolument faire comme ça pour les réparer et pas utiliser des techniques contemporaines de ciment, de placoplâtre ou de volets plastiques.
PVC.
Voilà, pour le PVC, parce que déjà ça dénature et ensuite surtout ça crée des désordres et les maçons eux-mêmes qui ont, à une certaine époque, qui sont intervenus sur ces maisons avec les matériaux qu'ils avaient à disposition, s'aperçoivent et disent « Ah, nous nous sommes trompés, c'est pas comme ça qu'il fallait faire ». Et alors ces erreurs arrivent maintenant à faire ce que j'appelle des horreurs. Les erreurs techniques deviennent des horreurs. Dans le paysage, c'est pas beau. On voit tout de suite que les fenêtres ont été mises au carré, qu'on a mis des volets en plastique, ou que la toiture a été complètement remplacée, la tuile canal a été remplacée par autre chose qui n'allait pas historiquement avec. Donc voilà le but de l'association d'une manière globale.
Alors, avec, vous l'avez déjà dit, un peu des actions de formation, quels sont les autres types d'actions que vous mettez en place à Maison Paysanne de France, justement, pour atteindre vos objectifs?
Alors, l'association dispose donc de ces groupes départementaux et l'énergie qui est déployée sert à faire donc des réunions d'information. Le premier travail, c'est d'informer les gens. Une personne m'a dit une fois, mais nous sommes des ignorants. Et j'ai bien aimé ce mot, parce qu'elle cherchait quelqu'un pour faire un enduit à la chaux, elle ne trouvait pas de maçon compétent sur son territoire, et elle ne savait pas s'exprimer, demander ce qu'elle voulait aux entreprises qu'elle rencontrait. Donc elle a dit, nous sommes des ignorants. Donc Maison Paysanne de France chasse l'ignorance, apporte le savoir, l'information. Donc nous avons des rencontres orales, des repas où on peut échanger. Nous avons une immense bibliothèque de 200 ou 300 titres et vidéos et cassettes d'informations où on peut s'informer, se documenter. On prête les livres aux adhérents, donc la cotisation sert à avoir ce matériel en prêt. Ensuite, nous faisons des journées d'échange de savoir, dont on peut pas dire formation, parce qu'on n'a pas de numéro d'agrément de formateur, donc nous faisons des échanges de savoir. Celui qui sait explique à celui qui ne sait pas. Et nous avons dans notre association, avec plaisir, des anciens artisans qui viennent nous rejoindre, des anciens maçons à la retraite, qui nous apportent justement leur savoir-faire. Au début, ils n'osaient pas montrer qu'ils savaient, et là, ils sont à nouveau contents, ça les valorise de nous dire comment on faisait les enduits, comment on faisait les badigeons, comment on travaillait la brique pour réparer un entourage de fenêtres, des choses comme ça. C'est passionnant, et là, on a vraiment ce qu'il faut faire quand on est devant ces maisons à restaurer. Mmh. On dit bien restaurer et pas rénover. Donc, si on joue sur les mots, mais c'est amusant. Restaurer, c'est remettre à l'identique. Et on dit une restauration bien conduite doit passer inaperçue dans le paysage. Mmh. Et une rénovation, c'est utiliser des techniques et des matériaux neufs sur une carcasse vieille. Donc, on fait une image de maison neuve sur un vieux bâtiment. Ça, c'est de la rénovation.
Voilà. Alors, vous vous occupez de Maisons Paysannes de France en Tarn-et-Garonne. Et le Tarn-et-Garonne, je ne sais pas si c'est partout pareil en France, mais le Tarn-et-Garonne est très riche et dans ses paysages, mais aussi justement, du coup, dans son architecture. On va trouver parfois sur le Causse des maisons en pierre, un peu plus loin des maisons en terre crue. Si on se rapproche des villes, des maisons plutôt en briques rouges. Est-ce que vous avez référencé un peu toutes les sortes d'architecture qu'on peut trouver dans notre département ?
Eh oui, alors on va dire sacré Napoléon, qui en 1808 a coupé un morceau à tous les voisins pour créer le Tarn-et-Garonne. Ouais. Et en coupant des morceaux de territoire, il a fait un puzzle de choses complètement différentes, dont nous avons établi un plan, une carte et un document que l'on donne aux adhérents, qui explique que à Montaigu de Quercy, c'est différent de Montclar, et que Beaumont-de-Lomagne, c'est différent de Lauze, de la même manière que c'est différent de Castelsarrasin. Dans tous ces territoires, ça nous a obligés à faire un gros travail de recherche qui avait été fait par mon prédécesseur, Monsieur Bourdoncle, et qui avait dressé un document de travail pour envisager comment restaurer dans chaque coin du département. Mais il y a quand même une base commune qui est observée. Donc quand on arrive dans une région ou qu'on hérite ou qu'on achète une maison, on observe dans un périmètre de 8 ou 10 kilomètres comment sont les maisons qui n'ont pas été touchées, qui sont peut-être en ruine, qui n'ont pas été encore transformées maladroitement. Et là, on va relever tous les indices intéressants de tours de fenêtres, de pentes de toiture, de solins de cheminée, d'entrée de porte, d'entrée de perron. Tous ces petits détails sont à relever très très vite avant que ce soit détruit, et ça nous sert de base de travail. Donc s'informer, observer, et on a un peu un leitmotiv à l'association, c'est quand on arrive là, ne rien faire pendant un an avant de planter un clou, pour ne pas se tromper. Ouais. Et cette année, on la met à profit pour s'informer. Et l'association accueille donc ces gens qui souvent n'ont même pas de maison et qui disent « j'ai envie d'acheter une maison chez vous, là dans votre région, comment je peux faire pour me méfier ?» Alors on leur dit « ben vous venez pendant un an, vous voyez comment on travaille, comment on regarde les maisons, et vous aurez une encyclopédie de savoir-faire et d'observation. »
Alors Pierre Buffali, l'exposition que vous avez mis en place aujourd'hui à la salle des fêtes de Monteil, c'est qui va s'étendre jusqu'au milieu de la semaine prochaine, je crois, parle plus précisément du bâti en terre crue du pays Midi-Quercy.
Voilà, donc ici nous sommes aujourd'hui dans la configuration pays Midi-Quercy, donc qui comporte 47 communes, et en particulier le secteur ouest de Montpezat jusqu'à Montclar, qui comporte lui 31 communes. Moi, je ne suis pas du territoire, donc je ne connais pas bien administrativement les choses. Ça couvre trois communautés de communes qui sont à l'ouest, de Montpezat, Nègrepelisse, Montclar. Là, ça fait 31 communes où il y a beaucoup de terres crues pour construire, mais aussi pour lier, pour faire les cloisons intérieures, et des choses comme ça. Nous avons donc, à la demande du pays Midi-Quercy, l'équipe du syndicat mixte, où il y a des gens formidables, nous ont demandé de porter ce projet culturel, parce que eux, dans leur politique de pays, ils veulent que ce patrimoine soit conservé et restauré pour créer de l'habitat. Parce qu'il y a une demande pressante d'habitat, avec la population qui augmente. Mmh. Et parallèlement aux constructions neuves qui existent autour des villes, des villages, des lotissements, de la construction contemporaine, il faut que ces habitats anciens ne soient pas détruits, mais gardés, sauvegardés et réhabilités pour faire de l'habitat. Première réponse, c'est ça, c'est garder l'ancien pour en faire de l'habitat. Deuxième objectif du pays Médicarcy dans sa politique, c'est puisqu'on va réparer ces maisons, il va falloir créer de l'emploi. Il va falloir des gens qui savent le faire. Donc il va falloir qu'il y ait des gens de la maçonnerie ou qui ne sont pas de la maçonnerie, qui se passionnent pour ces techniques, qui aillent en formation, donc pas chez nous, mais il y a des groupes de formation qui existent professionnellement. Donc ces gens iront en formation et créeront une entreprise, une micro-entreprise, ou seront embauchés dans des entreprises de maçonnerie générale qui auront une option restauration du bâti ancien. Et le troisième objectif, c'est favoriser la construction avec ces matériaux anciens, qui sont des matériaux qui correspondent un peu au développement durable, à l'écologie, à l'économie d'énergie. Donc c'est sur ces trois volets que depuis un an nous travaillons à ce gros projet et que Maison Paysanne de France doit le porter cette année sur le pays Midi-Quercy, donc secteur ouest, mais ça s'adresse à tout le monde, jusqu'à Loz et jusqu'à Parisot. Parce que il y a de la terre partout, et un jour un maire que j'avais sollicité pour savoir s'il était intéressé m'a dit: mais chez moi il n'y a pas de terre. Je lui dis: si, il y a de la terre, mais vous la voyez pas, parce qu'elle est recouverte d'enduit, de crépi au ciment ou de crépi coloré, et à l'intérieur vous avez des maisons aussi avec de la terre, des cloisonnages ou des colombages. Votre commune a de la terre. Ah bon, je savais pas.
Dites-moi, Pierre Buffoli, pourquoi ces maisons justement qui étaient en terre ont elles aussi été recouvertes d'enduit, de crépi grisâtre? Est-ce que c'était pour faire justement comme la maison du voisin, faire semblant d'avoir nous aussi une belle maison avec des murs droits?
Voilà.
Alors, et la cuisine en formica, c'est ça?
Le mot qui revient, c'est à la mode, ou ouais, c'est la mode de. Et puis il y avait aussi les matériaux. Donc ces matériaux à prise rapide, à manipulation rapide, qui était le ciment, les maçons l'ont appris dans les écoles de maçonnerie. On a vu que ça allait très vite, que les chantiers montaient beaucoup plus vite. Ils ont appliqué le même médicament, entre guillemets, sur le bâti très ancien que sur les maisons neuves de l'époque. Et alors évidemment, ça collait bien, mais ensuite ça tenait pas. Quelques années après, tout se décollait. Et on ne voulait pas retoucher la terre. La terre, c'est un peu péjoratif, c'est sale, c'est pas beau, c'est pauvre.
Est-ce que ça isole mieux d'avoir une maison avec un enduit, justement, du ciment sur ses murs en terre? Est-ce qu'on n'est pas mieux isolé?
Mais non, parce que lorsque vous mettez le ciment intérieur ou extérieur, ou les deux à la fois, sur ces maisons en terre crue, vous bloquez l'humidité à l'intérieur. Donc votre maison devient humide et froide, et c'est pour ça qu'à l'intérieur il y a des moisissures, des champignons et des désordres. Et de toute façon, la pression de l'eau va faire que le ciment va se décoller. Donc ce que vous avez collé au ciment va éclater. Les crépis éclatent et tombent tout seuls, se décollent comme un timbre. Donc c'est là où on s'est aperçu des désordres. Il faut revenir aux matériaux originels, qui étaient la terre et la chaux, qui eux sont des matériaux perméable. C'est un peu, si vous voulez, comme les pour nous les humains, si vous vous habillez d'un sac poubelle, si vous mettez un sac poubelle pour vous protéger de la pluie, vous serez protégé de la pluie, mais la transpiration intérieure du corps ne pourra pas passer à travers le sac poubelle. Donc vous serez mouillé à l'intérieur. C'est ce qui se passait avec les premiers coupe-vent qu'on appelait les caouets. Vous étiez mouillé davantage dedans que dehors. Donc c'est ce qui s'est passé avec le ciment. Il faut mettre des matériaux respirants, un peu comme la serviette de douche. La serviette de douche, elle se mouille, mais le soir, elle est sèche. Donc ces murs-là, c'est le même système.
Pierre Buffoli, c'est ce que montre votre exposition, là, jusqu'au milieu de la semaine prochaine?
Alors, nous sommes actuellement à Montaix, mais nous étions il y a 15 jours à Albias, et ensuite, nous allons tourner sur Mirabel, Bulle, La Salvetat, Belmonté et Genébrière. Cette exposition tournante est composée d'une magnifique exposition de panneaux réalisés par les CAUE de Midi-Pyrénées et qui nous est prêté par le CAUE de Toulouse. Donc nous avons accroché une vingtaine de panneaux qui montrent les différentes techniques, les différents modes opérationnels pour utiliser de la terre dans ces maisons anciennes, et on a aussi 5 ou 6 panneaux pour les maisons neuves, les maisons contemporaines qui utiliseront la terre, mais ça sera pas comme il y a 100 ans. Donc cette expo, elle est là, et samedi, nous avons justement, et c'est très important, une conférence à la salle des fêtes de Monteils pour tout le territoire, c'est ouvert à tout le territoire, même jusqu'à Montauban ou jusqu'à Rodez. Des gens qui sont intéressés par cette problématique, nous aurons des professionnels de la construction ancienne et de la restauration dont je vais vous parler ensuite.
Ah bah non, parce qu'on arrive au bout, donc ah. Vous en parlerez samedi.
Ah mais non, bah, s'il y aura des architectes, il y aura une géobiologue par exemple, c'est très important la géobiologie pour savoir comment on implante une maison et quels sont les désordres qu'il y a à l'intérieur pour nous-mêmes les habitants. Il y aura des archis et tout ça.
Ça démarre à quelle heure?
Alors c'est à 15h, la salle des fêtes de Monteils, et c'est gratuit.
Ah bah voilà, tout est dit. Merci Pierre Baffali, délégué départemental de l'association Maisons Paysannes de France du Tarn-et-Garonne, à samedi.
Merci, au revoir.